Les voyages de Gulliver dans des contrées lointaines, écrit par Jonathan Swift et traduit de l'anglais en 1727 par l'abbé français Pierre-François Guyot des Fontaines. Livre 1. Voyage à Lilliput.
Chapitre 1. L'auteur rend un compte succinct des premiers motifs qui le portèrent à voyager. Il fait naufrage et se sauve à la nage dans le pays de Lilliput. On l'enchaîne et on le conduit en cet état plus avant dans les terres. Mon père, dont le bien, situé dans la province de Nottingham, était médiocre, avait 5 fils. J'étais le 3e et il m'envoya au collège d'Emmanuel à Cambridge, à l'âge de 14 ans. J'y demeurai 3 années que j'employai utilement. Mais la dépense de mon entretien au collège était trop grande.
On me mit en apprentissage sous M. Jacques Bates, fameux chirurgien à Londres,
chez qui je demeurai 4 ans. Mon père, m'envoyant de temps en temps quelques petites sommes d'argent, je les employai à apprendre le pilotage et les autres parties des mathématiques, les plus nécessaires à ceux qui forment le dessein de voyager sur mer, ce que je prévoyais être ma destinée. Ayant quitté M. Bates, je retournai chez mon père, et tant de lui que de mon oncle Jean et de quelques autres parents, je tirai la somme de 40 livres sterling par année pour me soutenir à Leyde. Je m'y rendis et m'y appliquai à l'étude de la médecine pendant 2 ans et 7 mois, persuadé qu'elle me serait un jour très utile dans mes voyages. Bientôt après mon retour de Leyde, j'eus, à la recommandation de mon bon maître M. Bates, l'emploi de chirurgien sur l'Hirondelle, où je restai 3 ans et demi sous le capitaine Abraham Pannell, commandant.
Je fis pendant ce temps-là des voyages au Levant et ailleurs.
À mon retour, je résolus de m'établir à Londres. M. Bates m'encouragea à prendre ce parti et me recommanda à ses malades. Je louai un appartement dans un petit hôtel situé dans le quartier appelé Old Jewry. Et bientôt, après, j'épousai Mademoiselle Marie Burton, seconde fille de M. Edward Burton, marchand dans la rue de Newgate, laquelle m'apporta 400 livres sterling en mariage. Mais mon cher maître M. Bates, étant mort 2 ans après et n'ayant plus de protecteur, ma pratique commença à diminuer. Ma conscience ne me permettait pas d'imiter la conduite de la plupart des chirurgiens dont la science est trop semblable à celle des procureurs. C'est pourquoi, après avoir consulté ma femme et quelques autres de mes intimes amis, je pris la résolution de faire encore un voyage de mer. Je fus chirurgien successivement dans 2 vaisseaux, et plusieurs autres voyages que je fis pendant 6 ans, aux Indes orientales et occidentales, augmentèrent un peu ma petite fortune. J'employais mon loisir à lire les meilleurs auteurs anciens et modernes, étant toujours fourni d'un certain nombre de livres, et quand je me trouvais à terre, je ne négligeais pas de remarquer les mœurs et les coutumes des peuples et d'apprendre en même temps la langue du pays, ce qui me coûtait peu, ayant la mémoire très bonne. Le dernier de ces voyages n'ayant pas été heureux, je me trouvai dégoûté de la mer et je pris le parti de rester chez moi avec ma femme et mes enfants. Je changeai de demeure et me transportai de l'Old Jewry à la rue de Fetter Lane et de là à Wapping, dans l'espoir d'avoir de la pratique parmi les matelots. Mais je n'y trouvai pas mon compte. Après avoir attendu 3 ans, et espéré en vain que mes affaires iraient mieux, j'acceptai un parti avantageux qui me fut proposé par le capitaine Guillaume Pritchard, prêt à monter l'Antilope et à partir pour la mer du Sud. Nous nous embarquâmes à Bristol le 4 de mai 1699 et notre voyage fut d'abord très heureux. Il est inutile d'ennuyer le lecteur par le détail de nos aventures dans ces mers. C'est assez de lui faire savoir que, dans notre passage aux Indes orientales, nous essuyâmes une tempête dont la violence nous poussa vers le nord-ouest de la terre de Van Diemen. Par une observation que je fis, je trouvai que nous étions à 30 degrés, 2 minutes de latitude méridionale. 12 hommes de notre équipage étaient morts par le travail excessif et par la mauvaise nourriture. Le 5 novembre, qui était le commencement de l'été dans ces pays-là, le temps étant un peu noir, les mariniers aperçurent un roc qui n'était éloigné du vaisseau que de la longueur d'un câble. Mais le vent était si fort que nous fûmes directement poussés contre l'écueil et que nous échouâmes dans un moment. 6 hommes de l'équipage, dont j'étais un, s'étant jetés à propos dans la chaloupe, trouvèrent le moyen de se débarrasser du vaisseau et du roc. Nous allâmes à la rame environ 3 lieues, mais à la fin, la lassitude ne nous permit plus de ramer. Entièrement épuisés, nous nous abandonnâmes au gré des flots et bientôt nous fûmes renversés par un coup de vent du nord. Je ne sais quel fut le sort de mes camarades de la chaloupe, ni de ceux qui se sauvèrent sur le roc ou qui restèrent dans le vaisseau, mais je crois qu'ils périrent tous. Pour moi, je nageai à l'aventure et fus poussé vers la terre par le vent et la marée. Je laissai souvent tomber mes jambes, mais sans toucher le fond. Enfin, étant près de m'abandonner, je trouvai pied dans l'eau et alors la tempête était bien diminuée. Comme la pente était presque insensible, je marchai une demi-lieue dans la mer avant que j'eusse pris terre. Je fis environ un quart de lieue sans découvrir aucune maison, ni aucun vestige d'habitants, quoique ce pays fût très peuplé. La fatigue, la chaleur et une demi-pinte d'eau-de-vie que j'avais bue en abandonnant le vaisseau, tout cela m'excita à dormir. Je me couchai sur l'herbe, qui était très fine, où je fus bientôt enseveli dans un profond sommeil, qui dura 9 heures. Au bout de ce temps-là, m'étant éveillé, j'essayai de me lever, mais ce fut en vain. Je m'étais couché sur le dos, je trouvai mes bras et mes jambes attachés à la terre de l'un et de l'autre côté, et mes cheveux attachés de la même manière. Je trouvai même plusieurs ligatures très minces qui entouraient mon corps, depuis mes aisselles jusqu'à mes cuisses. Je ne pouvais que regarder en haut. Le soleil commençait à être fort chaud et sa grande clarté blessait mes yeux. J'entendis un bruit confus autour de moi, mais dans la posture où j'étais, je ne pouvais rien voir que le soleil. Bientôt, je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche et cette chose, avançant doucement sur ma poitrine,
montait presque jusqu'à mon menton.
Quel fut mon étonnement lorsque j'aperçus une petite figure de créature humaine, haute tout au plus de 3 pouces, un arc et une flèche à la main, avec un carquois sur le dos.
J'en vis en même temps au moins 40 autres de la même espèce.
Je me mis soudain à jeter des cris si horribles que tous ces petits animaux se retirèrent transis de peur. Et il y en eut même quelques-uns, comme je l'ai appris ensuite, qui furent dangereusement blessés par les chutes précipitées qu'ils firent en sautant de dessus mon corps à terre. Néanmoins, ils revinrent bientôt, et l'un d'eux, qui eut la hardiesse de s'avancer si près qu'il fut en état de voir entièrement mon visage,
levant les mains et les yeux par une espèce d'admiration,
s'écria d'une voix aigre mais distincte, « Hekina de Goul ». Les autres répétèrent plusieurs fois les mêmes mots, mais alors je n'en compris pas le sens. J'étais, pendant ce temps-là, étonné, inquiet, troublé, et tel que serait le lecteur en pareille situation. Enfin, faisant des efforts pour me mettre en liberté, j'eus le bonheur de rompre les cordons ou fils et d'arracher les chevilles qui attachaient mon bras droit à la terre, car en le haussant un peu, j'avais découvert ce qui me tenait attaché et captif. En même temps, par une secousse violente qui me causa une douleur extrême, je lâchai un peu les cordons qui attachaient mes cheveux du côté droit, cordons plus fins que mes cheveux mêmes, en sorte que je me trouvais en état de procurer à ma tête un petit mouvement libre. Alors ces insectes humains se mirent en fuite et poussèrent des cris très aigus. Ce bruit cessant, j'entendis un d'eux s'écrier « Tolgo Fonak », et aussitôt je me sentis percé à la main de plus de 100 flèches qui me piquaient comme autant d'aiguilles. Ils firent ensuite une autre décharge en l'air, comme nous tirons des bombes en Europe, dont plusieurs, je crois, tombaient paraboliquement sur mon corps, quoique je ne les aperçusse pas, et d'autres sur mon visage, que je tâchais de découvrir avec ma main droite. Quand cette grêle de flèches fut passée, je m'efforçai encore de me détacher, mais on fit alors une autre décharge plus grande que la première, et quelques-uns tâchaient de me percer de leurs lances.
Mais par bonheur, je portais une veste impénétrable
de peau de buffle. Je crus donc que le meilleur parti était de me tenir en repos et de rester comme j'étais jusqu'à la nuit, qu'alors, dégageant mon bras gauche, je pourrais me mettre tout à fait en liberté.
Et à l'égard des habitants,
c'était avec raison que je me croyais d'une force égale aux plus puissantes armées qu'ils pourraient mettre sur pied pour m'attaquer, s'ils étaient tous de la même taille que ceux que j'avais vus jusque-là. Mais la fortune me réservait un autre sort. Quand ces gens durent remarquer que j'étais tranquille, ils cessèrent de me décocher des flèches, mais par le bruit que j'entendis, je connus que leur nombre s'augmentait considérablement, et environ à 2 toises loin de moi, vis-à-vis de mon oreille gauche, j'entendis un bruit pendant plus d'une heure comme des gens qui travaillaient. Enfin, tournant un peu ma tête de ce côté-là, autant que les chevilles et les cordons me le permettaient, je vis un échafaud élevé de terre d'un pied et demi, où 4 de ces petits hommes pouvaient se placer, et une échelle pour y monter. D'où un d'entre eux, qui me semblait être une personne de condition, me fit une harangue assez longue, dont je ne compris pas un mot. Avant que de commencer, il s'écria 3 fois « Langro dehul san !» Ces mots furent répétés ensuite et expliqués par des signes pour me les faire entendre. Aussitôt, 50 hommes s'avancèrent et coupèrent les cordons qui attachaient le côté gauche de ma tête, ce qui me donna la liberté de la tourner à droite et d'observer la mine et l'action de celui qui devait parler. Il me parut être de moyen âge et d'une taille plus grande que les 3 autres qui l'accompagnaient, dont l'un, qui avait l'air d'un page, tenait la queue de sa robe, et les 2 autres étaient debout de chaque côté pour le soutenir. Il me sembla bon orateur, et je conjecturai que, selon les règles de l'art, il mêlait dans son discours des périodes pleines de menaces et de promesses. Je fis la réponse en peu de mots, c'est-à-dire par un petit nombre de signes, mais d'une manière pleine de soumission, levant ma main gauche et les 2 yeux au soleil, comme pour le prendre à témoin que je mourais de faim, n'ayant rien mangé depuis longtemps. Mon appétit était en effet si pressant que je ne pus m'empêcher de faire voir mon impatience, peut-être contre les règles de l'honnêteté, en portant mon doigt très souvent à ma bouche pour faire connaître que j'avais besoin de nourriture. L'Urgot, c'est ainsi que parmi eux on appelle un grand seigneur, comme je l'ai ensuite appris, m'entendit fort bien. Il descendit de l'échafaud et ordonna que plusieurs échelles fussent appliquées à mes côtés, sur lesquelles montèrent bientôt plus de 100 hommes qui se mirent en marche vers ma bouche, chargés de paniers pleins de viande. J'observai qu'il y avait de la chair de différents animaux, mais je ne les pus distinguer par le goûter. Il y avait des épaules et des éclenches en forme de selles de mouton, et fort bien accommodées, mais plus petites que les ailes d'une alouette. J'en avalai 2 ou 3 d'une bouchée, avec 6 pains. Ils me fournirent tout cela, témoignant de grandes marques d'étonnement et d'admiration à cause de ma taille et de mon prodigieux appétit. Ayant fait un autre signe pour leur faire savoir qu'il me manquait à boire, ils conjecturèrent, par la façon dont je mangeais, qu'une petite quantité de boisson ne me suffirait pas, et étant un peuple d'esprit, Ils levèrent avec beaucoup d'adresse un des plus grands tonneaux de vin qu'ils eussent, le roulèrent vers ma main et le défoncèrent. Je le bus d'un seul coup avec un grand plaisir. On m'en apporta un autre muit que je bus de même, et je fis plusieurs signes pour avertir de me voiturer encore quelques autres muits.
Après m'avoir vu faire toutes ces merveilles,
ils poussèrent des cris de joie et se mirent à danser, répétant plusieurs fois, comme ils avaient fait d'abord, « Hehina de Gaulle ». Bientôt après, j'entendis une acclamation universelle avec de fréquentes répétitions de ces mots. « Peplum selam » et j'aperçus un grand nombre de peuples sur mon côté gauche relâchant les cordons à un tel point que je me trouvai en état de me tourner et d'avoir le soulagement d'uriner, fonction dont je m'acquittai au grand étonnement du peuple, lequel, devinant ce que j'allais faire, s'ouvrit impétueusement à droite et à gauche pour éviter le déluge. Quelque temps auparavant, on m'avait frotté charitablement le visage et les mains d'une espèce d'onguent d'une odeur agréable qui, dans très peu de temps, me guérit de la piqûre des flèches. Ces circonstances, jointes au rafraîchissement que j'avais reçu, me disposèrent à dormir, et mon sommeil fut d'environ de 8 heures, sans me réveiller, les médecins, par ordre de l'empereur, ayant frelaté le vin et y ayant mêlé des drogues soporifiques. Tandis que je dormais, l'empereur de Lilliput, c'était le nom de ce pays, ordonna de me faire conduire vers lui. Cette résolution semblera peut-être hardie et dangereuse, et je suis sûr qu'en pareil cas, elle ne serait du goût d'aucun souverain de l'Europe. Cependant, à mon avis, c'était un dessein également prudent et dangereux, car en cas que ces peuples eussent tenté de me tuer avec leurs lances et leurs flèches pendant que je dormais, je me serais certainement éveillé au premier sentiment de douleur, ce qui aurait excité ma fureur et augmenté mes forces à un tel degré que je me serais trouvé en état de rompre le reste des cordons. Et, après cela, comme ils n'étaient pas capables de me résister, je les aurais tous écrasés et foudroyés. On fit donc travailler à la hâte 5 000 charpentiers et ingénieurs pour construire une voiture. C'était un chariot élevé de 3 pouces, ayant 7 pieds de longueur et 4 de largeur, avec 22 roues. Quand il fut achevé, on le conduisit au lieu où j'étais. Mais la principale difficulté fut de m'élever et de me mettre sur cette voiture. Dans cette vue, 80 perches, chacune de 2 pieds de hauteur, furent employées, et des cordes très fortes de la grosseur d'une ficelle furent attachées par le moyen de plusieurs crochets aux bandages que les ouvriers avaient ceints autour de mon cou, de mes mains, de mes jambes et de tout mon corps. 900 hommes des plus robustes furent employés à élever ces cordes
par le moyen d'un grand nombre de poulies attachées aux perches et, de cette façon, dans moins de 3 heures de temps.
Je fus élevé, placé et attaché dans la machine. Je sais tout cela par le rapport qu'on m'en a fait depuis, car pendant cette manœuvre, je dormais très profondément. 1 500 chevaux, les plus grands de l'écurie de l'empereur, chacun d'environ 4 pouces et demi de haut, furent attelés au chariot et me traînèrent vers la capitale, éloigné d'un quart de lieue. Il y avait 4 heures que nous étions en chemin, lorsque je fus subitement éveillé par un accident assez ridicule. Les voituriers s'étant arrêtés un peu de temps pour accommoder quelque chose, 2 ou 3 habitants du pays avaient eu la curiosité de regarder ma mine pendant que je dormais. Et s'avançant très doucement jusqu'à mon visage, l'un d'entre eux, capitaine aux gardes, avait mis la pointe aiguë de son esponton bien avant, dans ma narine gauche, ce qui me chatouilla le nez, m'éveilla et me fit éternuer 3 fois. Nous fîmes une grande marche le reste de ce jour-là, et nous campâmes la nuit avec 500 gardes, une moitié avec des flambeaux, et l'autre avec des arcs et des flèches, prêts à tirer, si j'eusse essayé de me remuer. Le lendemain, au lever du soleil, nous continuâmes notre voyage, et nous arrivâmes sur le midi à 100 toises des portes de la ville. L'empereur et toute la cour sortirent pour nous voir. Mais les grands officiers ne voulurent jamais consentir que Sa Majesté hasardât sa personne en montant sur mon corps, comme plusieurs autres avaient osé faire. À l'endroit où la voiture s'arrêta, il y avait un temple ancien, estimé le plus grand de tout le royaume, lequel, ayant été souillé quelques années auparavant par un meurtre, était, selon la prévention de ces peuples, regardés comme profanes, et, pour cette raison, employés à divers usages.
Il fut résolu que je serais logé dans ce vaste édifice.
La grande porte, regardant le nord, était environ de 4 pieds de haut et presque de 2 pieds de large. De chaque côté de la porte, il y avait une petite fenêtre élevée de 6 pouces. À celle qui était du côté gauche, les serruriers du roi attachèrent 91 chaînes, semblables à celles qui sont attachées à la montre d'une dame d'Europe et presque aussi larges. Elles furent, par l'autre bout, attachées à ma jambe gauche avec 36 cadenas. Vis-à-vis de ce temple, de l'autre côté du grand chemin, à la distance de 20 pieds, il y avait une tour d'au moins 5 pieds de haut. C'était là que le roi devait monter avec plusieurs des principaux seigneurs de sa cour pour avoir la commodité de me regarder à son aise. On compte qu'il y eut plus de 100 000 habitants qui sortirent de la ville attirés par la curiosité, et malgré mes gardes, je crois qu'il n'y aurait pas eu moins de 10 000 hommes qui, à différentes fois, auraient monté sur mon corps par des échelles si on eût publié un arrêt du Conseil d'État pour le défendre. On ne peut s'imaginer le bruit et l'étonnement du peuple quand il me vit debout et me promener. Les chaînes qui tenaient mon pied gauche étaient environ de 6 pieds de long et me donnaient la liberté d'aller et de venir dans un demi-cercle.
Fin du premier chapitre.